Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous emmène en reportage aujourd'hui. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme du dimanche 2 avril, nous vous proposons un reportage long format au sein de l'association Le Silence des Justes. Une structure rendue célèbre par le film français Hors Normes, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano en 2019. Cette association, qui est née en 1996, prend en charge à Paris et en Seine-Saint-Denis des enfants, des adolescents et des adultes avec des troubles autistiques lourds. Et c'est aux adolescents que nous nous intéressons aujourd'hui. Ils représentent la majorité des personnes accueillies. Médecins, pédopsychiatres, psychologues, infirmières, quels soins médicaux leur sont proposés et quel rôle jouent auprès d'eux les éducateurs, les éducatrices qui les accompagnent au quotidien. Si c'est vrai, l'association a été épinglée dans le passé pour sa situation financière précaire, que peut-on retenir de cette expérience portée par un idéal d'inclusion pour les personnes autistes, autant dans le monde scolaire que dans le monde professionnel, dans la société tout entière? C'est un reportage long format de Priorité Santé, signé Charlie Dupio. Bonjour Charlie.
Bonjour Caroline.
Alors, quelle prise en charge pour les personnes porteuses d'autisme? C'est une question complexe dont nous parlons régulièrement dans cette émission. L'autisme, un trouble du développement, et on peut aussi parler de trouble du spectre autistique.
Oui, l'autisme peut se caractériser par un déficit de communication, par des comportements répétitifs, une rigidité face au changement, ou encore par des difficultés dans l'apprentissage, dans le langage. Alors, au Silence des Justes, les jeunes porteurs d'autisme sont au cœur de la prise en charge proposée par l'association, aux côtés, et cela date de plusieurs années, d'adolescents qui souffrent aussi d'autres troubles mentaux avec des symptômes psychotiques qui impliquent une forme de perte de contact avec la réalité. Ce sont des cas dits complexes qui se retrouvaient jusqu'alors en hôpital psychiatrique ou même sans aucune prise en charge et à qui l'association propose une deuxième chance. Alors Clémentine fait partie de ces jeunes, elle est reconnue comme un profil psychotique. C'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées au Silence des Justes. La voilà qui arrive au troisième étage du pôle adolescent de la structure à Saint-Denis, dans le bureau du docteur Latifa Baba Aïssa, la médecin et pédiatre de toute la structure.
Ça va ?
Ça fait longtemps ! Tu veux danser avec toi ? Tu veux ? Ça va, Clémentine, ça fait longtemps ! T'es contente de me revoir ? Ça va ? T'as mal au pied ? Allez, assieds-toi. Allez, montre-moi. Comment tu as fait ça?
Tu nous montres ta main?
Ouais. Aïe. Tu veux que je t'aide? Attends.
C'est là.
Allez.
Ah. C'est le pouce?
C'est le pouce. Un pouce. C'est l'orteil qui fait mal. C'est vrai qu'il y a un... Ça, c'est un hématome. Elle a dû recevoir un coup. Et donc, il y a un hématome qui s'est constitué. Il n'y a rien à faire. Hein. Il va s'évacuer. Absolument, absolument. Parfois, quand ils sont très importants, les hématomes, avec une petite aiguille stérile, on essaie de percer l'ongle. Et du coup, ça permet au sang de s'évacuer. Mais dès que le sang est coagulé, constitué, ça va partir. Il est possible qu'elle perde son ongle, mais il n'y a rien à faire. Juste peut-être voir le pédicure. Tu ne sais pas te couper les ongles? Non, c'est compliqué, je crois, pour elle. C'est compliqué pour...
Ouais,
ok. Donc, on va essayer de voir. Ça te va? C'est bon, Clémentine? T'as d'autres choses à me dire, non?
Non.
T'es en forme? Tu fais du sport en ce moment?
J'ai fait 10 fois.
Qu'est-ce que tu fais comme sport?
La danse.
La danse. Tu peux nous faire quelques pas de danse?
Attends.
Et voilà, elle adore ça.
Déjà, elle est arrivée en dansant.
Ça, c'est Clémentine.
Moi, tu te rappelles? La danse.
Ouais, bah oui. Tu te rappelles lors de la fête de fin d'année?
Ah oui.
Et t'avais bien chanté en plus, tu te rappelles?
Tu as quel âge, Clémentine?
18 ans.
C'est très bien, Clémentine. Très, très bien.
Elle est en forme, Clémentine.
Ça se passe bien en ce moment,
oui. Ouais, ça va.
Vous êtes son éducateur?
Ouais. Moi, c'est Saint-Kevin et ouais, bah, je suis éducateur. C'est pas tous les jours, mais je m'occupe du groupe dans lequel elle est.
Et là, comment ça s'est passé? Elle vous a dit qu'elle avait mal aux pieds?
Moi, je l'ai vue hier. Du coup, c'est à partir de hier qu'elle m'a dit ouais, que ça lui faisait mal. À partir de là, on a dit qu'on allait appeler Rochani directement. Et puis,
L'infirmière?
Ouais, du coup, l'infirmière, ouais, et puis voilà.
Vous êtes venue là ce matin avec elle pour son pied?
Ce qui est facile avec Clémentine, c'est que comme elle est verbale, elle arrive à s'exprimer, à dire là où elle a mal. C'est bon pour toi, Clémentine? Okay. Clémentine, au revoir.
Bon, là, vous n'avez rien pu faire pour Clémentine.
Non. Exactement, rien pu faire, voilà. Parfois, ils viennent aussi juste pour nous voir. Hein. Ils passent souvent voir parfois ou l'infirmière, ou quand il y a le médecin aussi, pour parler de petites choses. Parfois, se confier à nous. Hein. Ils viennent pour des motifs de médicaux, mais en fait, c'est surtout pour ceux qui parlent. Après, c'est un peu plus compliqué, plus difficile pour les personnes non-verbales. Je dis, je suis médecin somaticien, c'est-à-dire je m'occupe de l'examen clinique somatique, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est maladie, pathologie, symptomatologie, de ce qui concerne le système neurologique, cardiovasculaire, ORL, ophtalmologique, dentaire, urogénital, orthopédique, c'est-à-dire voilà, de la santé physique du corps de l'enfant. Quand je fais la visite d'admission, je fais tous l'examen clinique. On prend bien sûr d'abord toutes les constantes, tension artérielle, saturation d'oxygène. Elle prend le poids et la taille de l'infirmière. Et du coup, on prépare l'enfant, que j'essaye de voir généralement en petite tenue, en caleçon, quand c'est possible. Souvent, avec les ados, c'est un petit peu compliqué. Donc, on fait la visite médicale. Et du coup, là, je fais mon examen cardiovasculaire, pulmonaire, digestif, un examen ORL. Les oreilles, un examen bucco-dentaire.
Et pourquoi c'est important, en particulier avec des enfants, par exemple, qui souffrent de troubles autistiques, de faire tous ces examens-là pour vérifier?
On est obligé de le faire parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, très souvent, par mon expérience, ces enfants qui ont des problèmes qui sont très souvent TS, c'est-à-dire avec des troubles du spectre autistique et avec des troubles psychiatriques, on est très, que ce soit les familles ou l'entourage, on est très souvent centré que sur ce qui est neurologique et psychiatrique. Et très souvent, la partie somatique, elle est complètement occultée, mise de côté. Et je dirais aussi un élément très important, c'est que c'est extrêmement difficile pour les parents d'avoir des rendez-vous à l'extérieur. Même nous, en tant que, quand on envoie parfois des enfants, il y a le professionnel, enfin certains médecins qui ont carrément peur de prendre ces jeunes en consultation. Je sais qu'on a eu un ophtalmo, par exemple, je n'ai pas donné de nom, parce que voilà, je l'ai mis sur liste rouge, parce que lui, non seulement il appréhende de prendre en charge nos enfants, mais il s'est déjà permis d'être limite maltraitant, étant donné qu'il a carrément crient après le jeune, alors que c'est des jeunes qui sont en situation de handicap et qui ont eu des troubles du comportement. Voilà. Ce qu'on fait, nous, on a essayé de créer des partenariats. C'est vraiment pas de façon officielle. Hein. Je prends l'exemple de la cardio. J'ai envoyé une fois un jeune voir la cardiologue parce qu'on fait systématiquement une consultation avec le cardiologue, comme c'est des enfants qui prennent énormément de neuroleptiques. Et donc, du coup, il faut voir si on peut lui donner. Il n'y a pas de contre-indication sur le plan cardiaque.
Des neuroleptiques, qu'est-ce que c'est?
Les neuroleptiques, c'est des médicaments qu'on donne quand des enfants présentent de troubles du comportement. Et c'est généralement des traitements qu'ils ont pratiquement à vie. Très souvent, on a des enfants qui font des crises extrêmement violentes. C'est vrai qu'ils ont déjà des troubles du comportement, mais c'est majoré parce que cet enfant, il a tout simplement une rage de dents et qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Donc du coup, sa façon de s'exprimer, c'est vraiment par la violence, par les crises. Donc du coup, on essaye d'éliminer tout ce qui est somatique. Donc je vous ai dit, les causes somatiques les plus fréquentes qui entraînent des troubles du comportement chez les enfants autistes, c'est surtout tout ce qui est problèmes dentaires et aussi les problèmes digestifs.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'ils peuvent avoir une douleur, par exemple une douleur dentaire, mais comme on ne comprend pas, voilà, ils l'expriment par des crises.
Exactement, par la violence.
Et ça veut dire, et ça c'est très important, que si on soigne certains maux de l'enfant, il peut avoir des troubles du comportement qui diminuent.
Oui, absolument, absolument. On peut le constater sur l'enfant. L'exemple d'un adolescent qu'on a eu chez nous, à l'âge adolescent, il avait 12 ou 13 ans, chez qui on avait fait un bilan auditif et chez qui on a retrouvé une surdité bilatérale profonde et qui a été appareillée. Et depuis qu'il a été appareillé, on avait remarqué que cet enfant a totalement changé de comportement parce qu'il entendait en fait, tout simplement, il arrivait à entendre. C'est des enfants qui sont... On a beaucoup d'enfants épileptiques parce que vous savez, L'épilepsie est souvent associée aux troubles du spectre de l'autisme. Donc on a beaucoup d'enfants épileptiques et c'est souvent, vous savez que l'épilepsie, on a énormément de formes cliniques, il y a plus d'une quarantaine répertoriées et parfois c'est vraiment, c'est vraiment des équivalents convulsifs. Enfin, c'est juste l'enfant qui fait une absence, il est là à un moment donné, il est totalement connecté, ou c'est des enfants qui ont parfois juste une révulsion des globes oculaires et c'est pas évident pour nous de détecter ça parce qu'on n'est pas tout le temps avec le jeune et c'est très souvent grâce aux transmissions et à la surveillance faite par les éducateurs qu'on arrive à avoir ces éléments. Donc ils nous mettent sur le mail, j'ai vu un tel, à un moment donné il s'est arrêté, il était bizarre, et du coup on leur dit on peut le voir en consultation. Après on demande une consultation avec le neuro qui confirme ou infirme en faisant
un neurologue.
Exactement, neurologue, oui, pour faire un électroencéphalogramme, faire peut-être des imageries, une IRM cérébrale, et étiqueter ou pas l'enfant avec une crise d'épilepsie.
En fait, vous travaillez aussi main dans la main avec les éducateurs qui repèrent des choses chez les jeunes.
On s'appuie énormément sur les éducateurs. C'est eux, en fait, qui sont H24 en face du jeune. C'est eux qui vont leur ramener les troubles du comportement, s'il est douloureux, les troubles du sommeil, s'il a mal, s'il y a une infection urinaire, c'est eux qui vont dire tiens, il a fait pipi, il s'est mis à hurler, il a mal. C'est vraiment les éducateurs qui nous ramènent les éléments parce que nous, somatiquement, quand je vais faire l'examen clinique, c'est pas évident que je puisse retrouver l'infection urinaire si l'enfant ne me dit pas j'ai mal quand j'urine.
C'est intéressant parce que ça veut dire que ici, la santé des jeunes est l'affaire de tous.
Exactement, c'est l'affaire de tous. Chacun à son niveau. C'est vraiment un autre aspect de la médecine que je pratique, hein, avec ce que nous rapportent tous les éducateurs. En fait, je ne suis pas seule dans la prise en charge médicale de l'enfant.
Une prise en charge collective, donc, dans cette structure Le Silence des Justes, qui accueille 120 personnes porteuses de troubles du spectre autistique ou bien qui présentent, on l'a compris, Charlie Dupiot, des symptômes psychotiques.
Oui, 120 personnes prises en charge, dont 62 adolescents, donc plus de la moitié. Jusque-là, Le Silence des Justes existait dans le 19e arrondissement de Paris et à Saint-Denis, dans le 93. Et début 2023, un nouveau centre a été ouvert par la structure pour regrouper tous les adolescents éparpillés jusque-là. C'est un accueil de jour à deux pas du Stade de France, à Saint-Denis, qui compte de nombreux professionnels, comme la médecin Latifa Baba Issa, qu'on vient d'entendre, et 40 éducateurs, rien que pour le pôle adolescent.
Alors, les adolescents viennent dans ce centre en journée la semaine. Et la nuit, où dorment-ils ?
Eh bien, la plupart sont logés dans des appartements qu'on dit éducatifs. Ils y vivent à 3 ou à 4, mais ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, bien sûr. Le nombre d'éducateurs sur place varie en fonction de leur autonomie et de leurs troubles du comportement. Dans chaque appartement, cela peut être du 1 pour 1, donc un éducateur pour un jeune, ou bien deux éducateurs pour 4 jeunes. Le soir tombé, c'est un veilleur de nuit qui vient dans chaque appartement. Alors, pour certains jeunes, il existe même un dispositif de semi-autonomie, c'est-à-dire qu'ils vivent chacun dans un studio au sein d'une résidence où se trouve un appartement avec une équipe éducative qui est là en permanence. Et enfin, certains, une poignée, dorment chez leurs parents ou bien en famille d'accueil. Alors, il faut savoir que les adolescents sont souvent orientés ici par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'ils ont été placés suite à une décision de la justice, leur maintien à domicile n'étant plus possible.
L'une des particularités de la prise en charge proposée par cette association, Charlie, ce sont les séjours en dehors du centre auxquels les jeunes peuvent participer.
Oui, au moins une semaine par mois pour ces jeunes, dans l'Oise ou dans le Val d'Oise, pas très loin de Paris le plus souvent, avec des activités de plein air ou bien des activités manuelles. Ces séjours sont au cœur du projet du Silence des Justes depuis le début. Stéphane Benamou a fondé cette association après avoir croisé la route d'un adolescent porteur d'autisme. Avant de nous raconter ce moment déterminant pour lui, il éteint son téléphone. Il le faut, dit-il, sinon ça ne s'arrête pas.
Alors, la rencontre, c'était Johan. Johan est un adolescent costaud de 16 ans qui est dans un hôpital de jour et qui va s'inscrire dans une colo classique en fait d'ado. Je suis le directeur et cette rencontre, elle va me changer un petit peu ma personne. Alors moi, je suis animateur et directeur d'un organisme de vacances à la base. Et donc, je m'adresse à des enfants et des adolescents. Le projet éducatif, c'est de développer l'enfant à travers les sports de montagne, mais aussi l'environnement. Le plus important, c'est de connaître la montagne, que ce soit l'été, hiver, printemps. On n'était pas habitués, on ne connaissait pas donc, l'inclusion des enfants différents, on va dire ça comme ça. Et puis, il s'est trouvé qu'on a rencontré un ado avec des troubles autistiques. Et donc, ça nous a, dans un premier temps, arrêtés. Et puis dans un second temps, on s'est dit, bon, pourquoi pas partager aussi ce qu'on aime faire. Et c'est ce qui s'est passé avec des adolescents qui l'ont pris avec eux. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a marché. Ça n'a pas marché avec les adultes, en fait, de la colo. Et je crois que la dernière carte à jouer pour l'inclusion, c'était les ados eux-mêmes. Et eux ont eu la simple idée, c'est de le mettre dans leur chambre, de l'emmener en activité, de l'aider à s'habiller, de l'aider à se dépêcher, de l'aider à comprendre son rôle dans une descente en parapente, son rôle dans, en fait, dans toutes les activités que la colo proposait. Il faisait rire tout le monde. Et puis, on va dire, il était moins autiste à la fin. En fait, ce qui nous a fait continuer, c'est un médecin psychiatre. Son directeur de l'hôpital de jour, le docteur Assouline, c'est lui qui a fait qu'on a continué cette aventure jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est lui qui nous a montré, démontré qu'il avait fait beaucoup de progrès en 3 semaines et qu'il n'aurait jamais fait ces progrès-là d'inclusion sociale si on ne l'avait pas pris dans notre colo, justement.
Alors, donc, vous avez eu cette expérience dans cette colonie de vacances où vous travaillez, qui vous a inspiré. Vous avez monté votre association Le Silence des Justes en 1996. Mm-hmm. En quoi la prise en charge ici, dans votre association, est particulière ?
Elle est particulière parce qu'elle est individuelle, parce qu'elle est adaptée à chaque situation et parce qu'elle est accompagnée, s'il le faut, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et parce que depuis 2010, on a cette cellule d'urgence médicalisée, parce qu'on a des médecins, parce qu'on a un médecin pédiatre, qu'on a un pédopsychiatre, qu'on a beaucoup de psychologues et qu'on a beaucoup d'éducateurs. Cette pluridisciplinarité, ces échanges donnent un sens à l'accompagnement et au développement. Un enfant, il a besoin, comme tout enfant, d'une vie d'enfant, d'un environnement d'enfant. La seule complexité dans l'autisme, c'est que lui n'a pas la communication. Et donc, c'est tout le travail qu'on met en place avec une équipe, c'est finalement de le connecter à notre monde, tout simplement.
Quelle est la part des adolescents dans le public que vous accompagnez ?
Alors, il y a une grande part d'adolescents, parce que, en fait, l'adolescence, c'est une deuxième chance. C'est pas parce qu'on est adolescent complexe qu'on ne réussit pas. Et nous, on en a la preuve parfaite parce que les situations adolescentes chez nous, elles viennent très complexes. Elles se stabilisent, elles deviennent des parcours adultes tranquilles.
Quand vous dites très complexe, qu'est-ce que ça peut être ?
Très complexe, ça peut être des ados qui sortent du sanitaire, qui ont des troubles du comportement ou qui ont été rejetés de toutes les structures. Et qui arrive et qui débarque au silence des justes. Et... Alors, la complexité, c'est le regard et la définition que vous donnez quand vous voyez un adolescent autiste qui est tout dans un balancement constant et qui est dans une stéréotypie gestuelle ou verbale pour laquelle, tant que vous n'avez pas une proposition d'activité structurée, vous le laissez dans son autisme et dans cette situation. Mais aucun, je dis bien aucun, c'est du 100%, aucun ne reste dans cette situation quand il rentre au silence des justes. Il y a une capacité de proposition, pas d'imposition, de proposition d'activité qui finalement déclenche une envie et donc déclenche aussi des apprentissages et un développement de l'autonomie.
On voit dans votre bureau l'affiche du film Hors Normes en hébreu.
Oui, c'est l'affiche en hébreu de Hors Normes, du film Hors Normes. Alors, ce film a été vendu dans 53 pays.
CAJM, centre de jour médicalisé.
Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A.
Le diagnostic, c'est quoi ?
C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire.
Ça nous laisse combien de temps, ça ?
Environ 15 jours.
Je vais trouver une solution.
Ce film, Hors Normes, il a été réalisé en 2019 par Toledano et Nakash. Il parle notamment de votre structure. Quel impact il a eu ce film pour vous, pour votre structure ?
Il a eu un impact pas seulement pour notre structure, il a eu un impact pour l'autisme au niveau national. C'est grâce à ce film qu'on a créé finalement ce que le Silence des Justes défend depuis 2010, c'est des petites unités résidentielles. L'habitat inclusif, il y en a maintenant dans tous les départements de France. Donc le cahier des charges des ARS aujourd'hui...
Les agences régionales de santé.
Oui, les agences régionales de santé, pardon, les ARS, c'est finalement d'imiter et de prendre la totalité du projet du Silence des Justes, de se l'approprier, et ça marche partout où on en fait.
En quoi il y a un manque en termes de prise en charge de ces enfants, de ces adolescents et de ces adultes autistes en France ?
Alors d'abord, il n'y a plus du tout un manque de connaissances. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et on va dire, c'est même peut-être la nouvelle qu'il fallait un jour entendre, c'est qu'aujourd'hui, on sait faire. Avant, on ne savait pas, ou on ne savait pas vraiment. Aujourd'hui, on connaît les parcours et on sait exactement comment on accompagne même les situations complexes. Il ne manque plus qu'une chose, c'est de créer des places. En fait, il manque des places, il manque des structures, il manque aussi des professionnels. Ça va créer des cas complexes si on ne répond pas à ce manque-là.
Un manque de professionnels pour soigner et prendre en charge les jeunes porteurs d'autisme. Et Le Silence des Justes n'est pas la seule organisation à s'en inquiéter.
Dans un manifeste d'octobre 2022, le collectif Autisme, qui rassemble des associations de parents d'enfants autistes, pointe, je cite, la rareté des programmes d'intervention pour les personnes autistes. Selon ce collectif, il manque notamment des orthophonistes, des psychologues et des éducateurs formés à ces troubles.
Alors, dans le nouveau centre ouvert au début de l'année à Saint-Denis par l'association Le Silence des Justes, vous avez aussi rencontré les principaux intéressés, Charlie ? Des adolescents.
Oui, grâce à Fatou Dramé, coordinatrice ici, elle me présente un jeune porteur d'autisme qu'elle décrit comme verbal, car il peut s'exprimer, ce qui n'est pas le cas de tous. D'emblée, il me demande si j'habite à Villiers-sur-Marne, une ville du Val-de-Marne, en région parisienne. C'est un endroit auquel il est très attaché. Vous allez comprendre pourquoi. Il se présente tout seul.
Raphaël.
Et tu as quel âge, Raphaël ?
22 ans.
Et alors, est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es là au Silence des Justes ?
40 minutes.
Ça fait 40 minutes que tu es au Silence des Justes ?
Ça va faire un an ? Un an et demi ?
En plus, ça fait presque 3 ans, je pense. Ça fait 3 ans que tu es là, Raphaël.
Ouais.
Oui ?
Oui.
Et qu'est-ce que tu fais alors ici, dans cet endroit ? Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu fais ?
Je travaille.
Tu travailles sur quoi ?
Des chiffres et lettres.
C'est très bien. Et tu fais quoi d'autre aussi ?
Je promène.
Tu te promènes ? Oui. Vous allez en forêt ?
Oui.
Oui.
Je vais en forêt.
Raphaël, la première chose qu'il nous demande, c'est t'as quoi comme voiture ? Là, c'est bizarre, il ne vous a pas posé la question. Mais en tout cas, d'habitude, il la pose. T'as quoi comme voiture ? Parce qu'il est vraiment... il aime beaucoup les voitures.
Quelle voiture tu aimes bien ?
Renault. Peugeot, Renault, Nissan, Ford, Opel, Land Rover.
Toutes les marques alors.
Mercedes, Volvo.
Oui, c'est bon. C'est Raphaël. Bon. En plus, il est très fort lui aussi sur les calculs. Hein. T'as pas dit ça ? Je crois que quand on dit...
Il retient les dates de naissance par cœur.
Et il sait que quand on donne une date de naissance, il sait quel jour c'est.
Moi, je suis née le 30 décembre 1990.
Du coup, elle a quel âge ?
T'as bientôt 33 ans.
Exactement.
Très, très, très fort.
Et j'ai une dernière question pour toi, Raphaël. Comment tu te sens ici, au Silence des Justes ?
Tranquille.
Alors là, t'es entouré par un éducateur et par la coordinatrice. Ça veut dire quoi, tranquille ?
Calme.
Bah, merci, merci beaucoup.
Alors du coup, Raphaël, il est arrivé dans un contexte un petit peu particulier, dans le sens où il était accueilli au sein d'un institut médico-éducatif, au vu de sa pathologie qui est autiste. C'était seulement une prise en charge la journée, et le soir, il rentrait chez lui au domicile. Mais il y a eu une dégradation, en tout cas en termes de comportement. Il était très agressif, il est devenu très agressif, et il fuguait beaucoup. Voilà, parce qu'il faut savoir que Raphaël, il est très autonome. En tout cas, il était très autonome dans les transports. Il prenait le bus pour aller tout seul du domicile jusqu'à l'IME. Du coup, son IME qui était à Villiers-sur-Marne.
Voilà. Son institut médico-éducatif. Exactement. Villiers-sur-Marne, une ville du Val-de-Marne, donc en région parisienne, dont il parle beaucoup manifestement.
Exactement, parce qu'il a son lien d'attache quand même qui est là-bas. Il demande souvent à retourner à Villiers-sur-Marne, prendre bus pour aller à Villiers-sur-Marne. Au début de sa prise en charge, en tout cas, on l'amenait souvent là-bas pour qu'il puisse avoir quand même ses repères. Et puis après, petit à petit, ça s'est estompé. Et même malgré tout ça, il en parle encore.
Et vous parlez de son domicile ?
Oui. Il était pris en charge aussi au domicile familial. Il y a dû avoir un signalement qui a été fait et donc un placement par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est ce qui a fait qu'il a été pris en charge chez nous. C'était assez compliqué, la prise en charge au domicile. Les parents, ils étaient quand même à bout de souffle parce que le comportement de leur fils devenait ingérable pour eux. Là, vous le voyez, il répond aux questions tranquillement et tout. Mais quand il est arrivé chez nous, on a connu quand même des comportements de sa part très, 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 très violents.
C'est-à-dire, par exemple ?
Il pouvait taper le professionnel, hein. Voilà, taper physiquement, s'en prendre aussi à lui-même, verbalement aussi. Donc, c'était compliqué à gérer. Mais bon, on a vu que le fait de poser un cadre, en tout cas auprès de lui, d'avoir un discours quand même apaisant et rassurant, atténuait en tout cas ses troubles du comportement. Des fois, il peut avoir des petits passages à l'acte, mais ça reste vraiment minime, c'est pas des grosses crises, c'est juste qu'il va tapoter sur l'épaule, mais sinon, il n'y a pas de passage à l'acte violent depuis un an.
Fatou Dramé, qu'est-ce qui vous a amené à travailler ici, auprès de ce public-là, d'adolescents porteurs d'autisme?
Alors, mon moteur à moi, c'est je suis arrivée ici un peu, pas par hasard, mais parce que je me dis que j'étais destinée à faire ce métier-là, parce que ça fait maintenant 14 ans que je suis dedans. Mais en tout cas, là, ce qui m'anime encore et ce qui fait que j'aime ce que je fais, c'est le fait de voir progresser les jeunes. Par exemple, un jeune à prendre des transports seul, il progresse, quoi. Un jeune aussi qui n'est pas autonome, par exemple un jeune autiste qui était en termes d'hygiène, qui n'était pas propre du tout, qui portait des couches, et là à l'heure actuelle, qui arrive à aller aux toilettes seul, quoi. C'est quelque chose d'énorme. Tous les jeunes qui sont présents ont progressé et c'est une réussite. Et c'est ce qui nous tient et maintient le fait qu'on veut venir travailler ici chaque jour.
Et ils sont nombreux à œuvrer à ces réussites, hein, à essayer du moins, au sein du pôle adolescent de l'association Le Silence des Justes de Saint-Denis.
Oui, il y a, attention, la liste est longue, une psychologue, une neuropsychologue, une psychomotricienne, une médecin, une infirmière, un directeur, deux chefs de service, trois coordinateurs. Il y a même une institutrice qui donne cours le matin, un éducateur sportif et aussi une diététicienne qui propose cet après-midi un atelier autour de l'odorat devant quatre jeunes assis et attentifs.
Allez, on ferme les yeux. Marouane, tu fermes les yeux? Allez, on respire.
Vas-y.
Chut, tu dis pas, hein, tu laisses les autres découvrir.
C'est bon?
C'est bon? Donc là, on travaille avec des petits flacons et on fait passer pour qu'ils se concentrent, ouais, et qu'ils apprennent à se concentrer sur leur sens.
C'est bon, Victor?
C'est bon? Allez, il est facile celui-là. Victor, tu penses que c'est quoi comme odeur? Est-ce que c'est une bonne odeur?
Non.
Non? T'es sûr? Est-ce que c'est une odeur sucrée? Oui.
Chocolat.
Ouais, bravo Victor. Regardez, c'est du chocolat. Ah. Vous voyez, en fait, pourquoi on fait cet atelier? Pour vous rendre compte que des fois, lorsqu'on mange, eh ben, on ne prend pas le temps de se concentrer sur ce qu'on mange, sur les odeurs qu'on mange, sur les textures. D'accord? Des fois, vous avalez ce que vous mangez et vous n'avez même pas le temps de vous rendre compte de la bonne odeur que peut avoir le chocolat, ou le poulet, ou la viande, ou le fromage, d'accord? Allez, on passe à un autre flacon. Allez, on ferme les yeux.
Je m'appelle Edna Mimouni, je suis diététicienne nutritionniste au sein de l'association Le Silence des Justes, et je propose différentes séances éducatives autour des cinq sens, autour du plaisir alimentaire, pour redécouvrir ce plaisir lors du repas.
Qu'est-ce que vous leur proposez d'autre à part ces ateliers?
Alors, on leur propose également des séances individuelles où ils peuvent avoir des consultations autour de leur prise de poids. Certains sont en surcharge pondérale, certains sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc, on va essayer de retravailler autour de l'équilibre alimentaire pour permettre d'éviter toutes les complications liées à ce type de pathologie.
Donc, par exemple, qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment ça se passe une séance?
Alors, une séance, déjà, on repart de leurs habitudes et on part à partir de leurs difficultés également. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de l'autisme, on a beaucoup de sélectivité alimentaire, c'est-à-dire que leur répertoire alimentaire est très réduit et que certains aussi ont des troubles sensoriels, c'est-à-dire qu'ils vont, rejeter certains types d'aliments ou ils vont manger que certains types d'aliments, des aliments blancs tels que les pâtes, le pain, le riz. Et on va essayer justement d'élargir ce répertoire alimentaire pour arriver à un équilibre alimentaire. Donc en fait, justement, cette sélectivité alimentaire, elle peut avoir deux conséquences. Soit la conséquence du surpoids et de l'obésité parce que les jeunes mangent beaucoup d'aliments à densité nutritionnelle élevée, donc des gâteaux, des aliments riches, frits, etc. Ou à l'inverse, cette sélectivité alimentaire, elle peut mener à une dénutrition. Le fait de manger très peu d'aliments, eh ben, ils vont être carencés en nutriments. Et donc, on va essayer justement d'enrichir leur alimentation. Une autre problématique qu'on a dans l'autisme, c'est que les jeunes ont tendance à engloutir, à avaler. Et on essaye justement de retravailler sur le temps du repas, le fait de manger lentement, de mastiquer. On travaille beaucoup sur ça. Moi, ce que je veux apporter en tant que diététicienne, c'est d'apporter justement le plaisir alimentaire et que l'alimentation, ce soit qu'un moment de bien-être.
Et pour Edna Mimouni, diététicienne au silence des justes, le bien-être, ça passe par l'assiette.
Et bien sûr, cela passe aussi par une prise en charge psychologique pour ces adolescents porteurs d'autisme ou de profils psychotiques. La neuropsychologue de la structure Solène Dufossé réalise des bilans cognitifs, c'est des tests de type QI, pour évaluer le fonctionnement intellectuel des jeunes à leur entrée dans la structure, ou bien si par exemple l'institutrice se questionne sur la pertinence d'un apprentissage particulier pour un jeune. Alors ces tests ne sont pas possibles pour les profils d'autistes sévères, et la majeure partie de son temps, elle propose, comme l'autre psychologue du centre, des séances de thérapie. Avec les adolescents autistes qui viennent la voir, elle passe par le dessin ou par les marionnettes pour travailler les émotions. Alors s'il ne parle pas à l'adolescence, il est rare qu'un adolescent porteur d'autisme devienne verbal. Sa plasticité cérébrale n'est plus la même que pendant l'enfance, mais on peut lui apprendre à communiquer avec des pictogrammes, des images, ou bien en langue des signes simplifiée qu'on appelle le macathon. C'est ce que propose cette neuropsychologue pendant des ateliers. Et dans les trois étages du pôle adolescent du silence des justes, les disciplines se croisent, vous l'aurez compris. Hélène Robin est socio-esthéticienne. Ça veut dire qu'elle offre des soins d'esthétique à des personnes fragilisées par une maladie, quelle qu'elle soit. Là, elle va chercher Mehdi, un adolescent accueilli ici, pour lui proposer un temps de massage.
Voilà, il m'a vu. Bonjour Mehdi.
Bonjour madame, vous allez bien?
Bien. On va en séance?
Ouais, on va en séance.
T'as quoi là de prévu?
Rien de spécial.
Et là, on arrive dans votre salle, Hélène Robin, de socio-esthétique. Il y a une ambiance qui se dégage de cette salle, dans la détente. Il y a donc cette table de soins, il y a un petit tapis en osier par terre, il y a un petit pouf qui a l'air douillé.
Alors là, les jeunes le savent, quand ils arrivent dans cette salle, il y a un cadre à respecter et surtout être dans le calme. Mehdi, tu peux poser tes affaires ici. Donc quand ils arrivent, ils s'installent, ils enlèvent leurs chaussures et après la séance de bien-être commence. Alors Mehdi adore venir ici.
Ça se voit, il est tout sourire.
J'ai mal au dos là, j'ai mal au dos. Je vais
faire le massage du dos. Donc je prélève un petit peu d'huile. Ça va Mehdi?
Ouais, ça va, j'allais dormir.
T'es hyper tendu des épaules, hein. T'as fait du sport?
Je fais des pompes.
Et alors, tu as l'air de particulièrement aimer les massages?
Ouais, ça fait du bien, j'aime bien le massage. Ouais, ça fait du bien ici, là, dormir, tout ça.
Dans la nuque, c'est ça que tu montres?
Ouais, dans la nuque ici, là.
Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, des soins comme des massages ou d'autres soins de beauté à des jeunes qui souffrent de différents troubles, et notamment des troubles autistiques?
Pour des jeunes aux troubles autistiques, c'est vraiment travailler justement le toucher, l'approche de l'autre, être en relation. Et puis aussi le lâcher prise, se détendre, leur procurer un moment de plaisir et de douceur. Bon, ils ont besoin de ça, on en a tous besoin d'ailleurs.
Et en quoi votre travail, selon vous, il complète le travail par exemple du médecin, de l'infirmière, de la psychomotricienne?
Alors déjà, moi quand je touche les jeunes, je peux remarquer parfois des petites blessures, des choses comme ça. Donc là, je vais faire le lien avec le pôle médical. Je peux signaler des fois une petite blessure, des fois ils se sont abîmés le pied dans la chaussure, mais ça n'a pas été vu. Voilà, donc des choses comme ça. Et puis après, quand le jeune il veut, par exemple, un soin plutôt qu'un autre, quand ils ont cette capacité de choisir, parce que ce n'est pas toujours le cas, je vais leur demander de faire une demande adaptée.
C'est-à-dire?
Alors, on utilise, nous, un outil qui s'appelle la bande phrase, où il va choisir des pictos.
Alors, les pictogrammes, c'est des images, en fait. Il y a aussi écrit les mots.
Plastifié, voilà, qu'on pose sur une feuille avec des scratchs. Ça, c'est pareil, c'est les éducateurs qui travaillent ça avec les jeunes. Donc, ils apprennent, dans un premier temps, à reconnaître ces pictos. Et quand ils savent les reconnaître, après, ils sont capables d'aller les chercher dans leur classeur et de faire une demande avec le picto. Donc ça peut être pour un jeune qui est non-verbal, mais avec l'aide du picto, il sait faire une demande, il va aller chercher son picto.
Donc là, vous avez sorti quelques pictogrammes. On voit « je veux » avec une main dessinée et un cube.
Ouais.
Il y a « relaxation ». Donc à chaque fois, le mot est écrit, mais il y a aussi donc une image. Et là, l'image de la relaxation, c'est des personnes qui sont allongées sur le côté, sur un tapis.
C'est ça. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que je travaille ici.
Et vous aviez des appréhensions avant de venir ici ?
Énormément. Oui, au début, quand on arrive, c'est pas évident parce que dans les troubles autistiques, il peut y avoir de la violence parfois. C'est jamais facile.
Ça vous est arrivé combien de fois à vous ?
Alors moi, depuis un an et demi que je suis là, des coups qui m'ont marqué. Hein. Je parle pas de petites pichenettes sur. Où je t'appelle en posant la main sur l'épaule de façon un peu abrupte, mais où j'ai eu mal 3 fois.
Vous vous en souvenez ?
Oui, je m'en souviens parce que bah déjà, c'est toujours le même jeune.
Et c'est des coups.
Ah, lui, il attrape les cheveux. Je me suis posé la question, est-ce que je vais pas mettre un foulard ? Non, mais après, on s'attache les cheveux. Et puis, encore une fois, on observe, on évite. Et puis on est nombreux. Hein. Là, Mehdi, il est venu en séance, mais lui, j'ai pas de souci de comportement avec lui. Mais il y a des jeunes, l'éducateur rentre dans la salle et il est avec moi pendant toute la séance. Et quand c'est un jeune compliqué, il peut y avoir 2 éducateurs dans la séance avec moi. C'est quand même rare qu'il y ait de la violence, quand même.
Et est-ce que ça a pu, à un moment, vous dissuader de travailler ici, ces expériences ?
Oh, il y a des questionnements qui se font, mais bon, je suis toujours là. Hein.
Quel questionnement ?
Est-ce que je vais supporter sur le long terme ? Mais bon, il y a tellement de belles choses qui se passent ici. Ça nous motive.
Et Charlie, malgré quelques moments de découragement, la douceur et la motivation restent égales pour Hélène Robin, socio-esthéticienne au Silence des Justes.
Et ces rendez-vous à l'Institut de beauté du Centre sont notés dans l'emploi du temps de chaque jeune. Certains viennent même la voir une fois par semaine. Alors, leurs emplois du temps sont affichés au mur de leur salle respective. C'est un cadre qui rassure les jeunes en leur donnant des repères. Et sur l'emploi du temps de Yannick ce matin, il y a yoga. Une séance animée par Hélène Robin qu'on vient d'entendre dans la salle de psychomotricité avec la psychomotricienne Sophie Marandon.
On vient déjà enlever le manteau, les chaussures. On se met à l'aise pour ce petit moment de détente, de concentration sur soi.
Donc là, c'est un atelier de yoga avec un jeune.
Voilà, ça arrive. Hein. Des fois, il n'y a qu'un seul jeune, mais ils ont besoin aussi des fois d'avoir des temps un indiv comme ça.
Un individuel.
Ouais. C'est bon pour toi, Yannick ?
Oui.
Je te laisse rentrer dans le cercle. Et du coup, c'est une séance après qui va se passer dans le silence. Et on va se concentrer sur le ressenti de notre corps. On prend le temps de bien respirer.
Merci.
Merci.
Merci tout le monde.
Et on peut juste peut-être terminer en disant comment on se sent.
Alors, moi, écoute, je me sens d'attaque pour commencer la journée, donc c'est chouette, voilà, motivée.
Eh bien, je me sens réveillée.
Moi aussi, je me sens réveillée.
Merci Yannick.
Donc là, vous vous êtes étirée, vous avez respiré.
Je me suis étirée parce que c'est vrai que j'étais un peu endormie ce matin.
Alors peut-être, est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez ?
19 ans.
Depuis combien de temps vous êtes ici ?
Je crois que je suis rentré en 2019.
Et c'est quoi le programme de la journée après ?
Après, bah, je vais aller travailler.
Et quand vous dites travailler, c'est vous allez travailler quoi précisément ?
Français. C'est avec les éducateurs. Normalement, le matin, je travaille. Après, je mange. Et après, je fais la sieste.
Et est-ce que vous avez des amis ici ? Des personnes que vous voyez souvent ?
Ah oui, j'en ai plein. Ils ont entre 15 ans et 16 ans. Ah, ils sont plus jeunes que moi, mais je les aime bien quand même.
Et qu'est-ce que vous pensez alors de cette association du Silence des Justes ?
Que c'est une très bonne association. Ça me ramène plein de choses.
Qu'est-ce que ça vous ramène ?
Oh, ça me ramène... bientôt, ça va me ramener un travail et un logement.
Alors du coup, je suis Dramé Fatou, je suis coordinatrice au sein du pôle adolescent du Silence des Justes. J'accompagne les jeunes dans leurs projets. Dans leur projet d'insertion professionnelle, insertion sociale. Alors du coup, Yannick, c'est vrai qu'il a plein de rêves. Donc on essaye de, tout doucement, de l'amener en tout cas vers ce qui est possible pour lui en fonction de ses capacités. Yannick, lui, au vu de son profil, il est plus, il tend vers un milieu protégé pour que ça soit quelque chose de plus sécurisant pour lui.
Un milieu protégé, ça veut dire une entreprise adaptée, Charlie Dupiot.
Oui, ce qu'on appelle aussi un ESAT, c'est-à-dire un établissement et service d'aide par le travail pour des personnes handicapées. Yannick aimerait travailler dans un atelier de logistique plus tard ou bien de conditionnement dans une de ces entreprises.
L'action de cette association, Le Silence des Justes, a été, on l'a dit, un rendu célèbre par le film français Hors Normes, sorti en 2019. Et ce film revient sur les difficultés financières de l'association.
Oui, alors la structure a fait l'objet de deux rapports de l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, en 2017 et en 2019. Ces rapports évoquaient alors une situation financière précaire, mais ils notaient aussi, je cite, « le mode de prise en charge original et très individualisé, mis en œuvre dans un contexte de carence de solutions alternatives adaptées à la situation de ces personnes ». Alors j'ai interrogé Stéphane Benamou, le fondateur de l'association, sur le sujet. Pour lui, la situation a été régularisée, l'association n'a depuis plus eu aucun problème financier.
Et on continue le fil de cette journée au sein de l'accueil de jour des adolescents.
Oui, un groupe part maintenant pour l'atelier robotique. Ce groupe, c'est celui des 4 Fantastiques. Ici, les groupes sont nommés d'après les comics de l'univers Marvel. Et ils sont 4 adolescents à se rendre au siège d'une autre association, Autisme Action, qui propose des activités autour du jeu à Gonesse, donc à une petite demi-heure de là. Atuma Sukuna, éducatrice, est au volant du camion qui les emmène aux côtés de 3 autres éducateurs. Pendant qu'elle se gare, Tézi, l'un des 2 jeunes dont elle est référente, a envie de la conseiller sur son créneau.
Vas-y Tézi, tu nous guides. Vas-y Tézi. Ok. Ok. Merci Tézi, t'es un amour. Et voilà. Ouais. Attendez, vous sortez du côté du trottoir, c'est bon, c'est parfait. C'est parti.
La viande.
Attends. Fadji, attends. Par là, s'il te plaît. Moufida. Non, par là, parce qu'il est trop loin devant.
Et là, on arrive à l'atelier robotique.
Alors,
La viande. L'autre, il y a la viande. Oui, j'éteins.
Allez, c'est parti. Vas-y, premier étage, fais-y, tu montes. C'est parti.
Salut, ça va? Vous allez bien? Bonjour.
Ça va, Milo?
Ça va, Thomas? Comment
toi? Enlève ton manteau. Au final, t'enlèves ton manteau?
Les jeunes, ils peuvent poser leur manteau ici. Je vais en mettre 2 là, de l'autre côté, et 2 ici. On les sépare, tu vois.
Yassi et... Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme exercice avec toi? On fait costume party? Alors, on fait ça? On va l'habiller. Ok? Ça, normalement, tu y arrives.
C'est un personnage qui s'affiche à l'écran et ouais. Il faut l'habiller.
Exactement.
Pourquoi c'est important pour vous, cette sortie ici?
Ah, parce qu'on travaille énormément de compétences. Et les jeunes, c'est un moment qu'ils apprécient quand même pas mal. Sachant que nous, on n'a pas de tablette sur l'accueil de jour. C'est pas des apprentissages où on va être derrière eux à leur dire tu apprends ça. Ça va pas être machinal en fait, ils vont s'amuser parce que c'est sur des dessins, il y a des couleurs, donc ça stimule plein de choses et franchement c'est top. Et elle a réussi. Et c'est toujours mieux de faire passer par le jeu. Donc là, pour le coup, donc ils ont besoin d'être un pour un. Donc là, elle se réveille, elle se lève, elle va marcher, elle va se rasseoir. C'est bon?
Là, elle avait besoin de se lever, de crier, de faire des gestes avec ses bras.
Après, elle le fait souvent, ça. C'est... Ouais, elle en avait besoin. Mais on la restreint pas. Elle fait si elle a besoin de faire. Et elle reviendra d'elle-même, du coup. On attend. Faut être patient. Mais on s'adapte.
Alors là, on l'entend et on le voit. En fait, vous êtes très proche des jeunes que vous suivez. Vous les connaissez bien.
Oui, c'est des jeunes que je suis depuis pas mal d'années. Thésie, ça fait bien 4 ans.
Comment vous définiriez votre rôle d'éducatrice ?
Notre but principal, c'est vraiment d'accompagner les jeunes à être un petit peu, beaucoup plus autonomes. Il y a la sécurité aussi, on ne se rend pas compte, mais quand on encadre un groupe et même un jeune, hein, la sécurité, c'est primordial parce qu'il y en a qui peuvent se mettre en danger pour éviter qu'il y ait des incidents, des accidents. Donc, on est amené parfois à faire de la contenance physique.
Donc, vous savez contenir un jeune qui pourrait avoir une crise ?
Je pense que je sais contenir. J'ai déjà eu à contenir des jeunes et je ne me suis pas blessée, je ne les ai pas blessés, donc je pense. Donc, on va tenir les mains, ça, c'est de la contenance. Même si on n'est pas sur lui, ça reste de la contenance, on va tenir les mains. On va l'aider à respirer, on va l'aider à se canaliser. On le met sur un tapis. Souvent, on demande qu'il s'allonge pour éviter qu'il se colle la tête ou qu'il court ou autre. Et de là, bah, on discute et le temps que la crise passe.
Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous impressionner au départ, ces crises ?
Non, non. C'est l'autisme. On sait dans quoi on rentre, on sait dans quoi on s'embarque, sachant qu'en formation, on fait des stages. Donc avant d'arriver au silence des justes, je savais ce qu'était une crise de colère. Ça ne m'a pas impressionné, ça ne m'a pas étonné, ça ne m'a pas choqué. Et après, on accompagne le jeune, mais on accompagne aussi les familles. Par exemple, moi, j'ai un jeune en référence. Je sais que la maman m'appelle souvent. On s'appelle 2 fois par semaine.
Il y en a qui sont peu présents ?
Ouais. Bah ouais, comme partout, malheureusement, il y en a qui ne sont peu, voire pas présents.
Bah, Stéphane Benamou, je suis directeur général de l'association Le Silence des Justes. Je travaille avec l'autisme depuis 1992. Et toujours avec une visée inclusive d'enfants, d'adolescents et d'adultes aujourd'hui.
Votre structure s'est considérablement agrandie depuis 1996. Et là, vous avez ouvert un centre à Saint-Denis début 2023 pour les adolescents.
Alors ça, c'est une réussite, c'est un aboutissement. Et je pense que c'est un exemple en France parce que c'est des situations qui sont rentrées et qui sont arrivées complexes et qui se sont stabilisées. Et donc, on n'aura pas des adultes qui sont des adultes qui vont aller dans le sanitaire. On aura des adultes bien réveillés qui vont aller plutôt sur les plateformes Pôle emploi, sur l'insertion professionnelle et enfin sur l'habitat inclusif. Et donc, des devenirs adultes et des parcours de vie qui vont être enfin leur choix. Parce qu'on apprend dans ce centre-là à faire ses choix de vie.
Comment vous voyez l'avenir de votre structure aujourd'hui ?
En développement continu, dans un monde plus inclusif. Enfin, on espère. On co-organise le salon de l'autisme en Afrique, au Cameroun exactement. Donc le silence des justes va être présent. On travaille aussi avec le Maroc et l'Algérie pour l'autisme. Et donc on travaille un peu avec tous les pays depuis que ce film est sorti et depuis qu'on a été contacté par... on s'est rendu compte que c'était un problème planétaire en fait. Parce que ce soit Toronto, Atlanta, Alger, Oujda au Maroc, Tel Aviv aussi, voilà, c'est les mêmes problématiques en fait. On n'a pas cette place toujours pour les enfants autistes. On manque de capacité d'accompagnement au niveau de l'inclusion des établissements scolaires, dans la vie sociale, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc on est plus fort quand on est tous ensemble et réunis autour de l'autisme. Et l'autisme sera mieux perçu dans plus très longtemps maintenant.
Stéphane Benamou, directeur fondateur du Silence des Justes, prône une meilleure connaissance de l'autisme. À l'école, dans les clubs sportifs, dans les colonies de vacances, bref, partout.
Oui, et son association est aussi devenue un centre de formation. Le but, c'est de professionnaliser les accompagnements des enfants et des adolescents autistes en France et ailleurs.
Un grand merci à Charlie Dupiot pour ce reportage qui a été réalisé par Didier Bleu. Et demain, on se retrouve dès 9h10, temps universel dans Priorité Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.